France Inter, il est midi et demi, votre grand rendez-vous d'info de la mi-journée avec Bruno Duvic.
Bonjour à tous et bienvenue dans le grand rendez-vous. Dans les minutes à venir, cette question, faut-il alléger le protocole sanitaire à l'école? Selon les derniers chiffres du ministère, un élève sur quatre est revenu à l'école, moins d'un sur cinq au collège. La pression des parents qui reprennent le travail ou des pédiatres qui voient arriver des enfants en difficulté dans les cabinets est de plus en plus forte. Le ministre ne ferme pas la porte à un allègement des mesures. Le président du conseil scientifique plaide pour, au moins en dehors de la classe. Alors est-ce possible et comment? Est-ce que cela vaut le coup 4 semaines avant la fin de l'année? Voilà pour notre sujet du jour. Nos invités sont la porte-parole de la Fédération des parents d'élèves, la PEP, Céline Frattaroli, le pédiatre Robert Cohen, qui a dirigé une étude montrant que les enfants sont nettement moins contaminés et contaminants que les autres, et le secrétaire général du syndicat enseignant UNSA, Stéphane Crochet. Et nous attendons évidemment vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Intervenir, c'est dans un instant. À 12h55, sur le carnet des solutions de Philippe Bertrand, bouge ton coq, une souscription pour sauver les petits commerces et entreprises en milieu rural. À 13h, un journal complet, à la une, le plan du gouvernement pour l'aéronautique. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Ce plan, il est construit autour de trois grandes ambitions. La première, c'est évidemment de sauver les emplois. Si nous n'apportons aucune aide publique immédiate, ce sont 100 000 emplois qui sont menacés dans les 6 mois.
Et le ministre annonce 15 milliards d'euros pour l'aéronautique. 7 avaient déjà été promis à Air France KLM. À 13h30, ce sera la Terre au carré. Notre système alimentaire est-il en crise? C'est la question du jour. Ensuite, vos messages sur le répondeur, le choix musical d'Antoine Decaune. Et comme chaque mardi, Philippe Collin nous raconte une histoire de sport pour oublier toutes les compétitions annulées.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous.
Et j'accueille d'emblée l'un de nos invités. Bonjour, professeur Robert Cohen. Vous êtes pédiatre à Créteil, vice-président de la Société française de pédiatrie, et vous avez dirigé une étude qui montre que les enfants sont très peu impliqués dans la transmission du virus. Je suis pas sûr qu'on soit en ligne avec le professeur Cohen. Et ben, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prendre en ligne la première auditrice d'emblée? Est-ce que Marie est avec nous au téléphone?
Oui, bonjour.
Bonjour Marie, vous nous appelez de Paris. Je voulais qu'on parle de l'étude sur les enfants avant, mais on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Deux enfants, 4 et 8 ans, est-ce qu'ils ont repris les cours?
Non, pas du tout. Aucun des deux n'a repris encore.
Et vous trouvez le temps très long, j'imagine?
Ben oui, enfin le temps long, et surtout je commence à trouver ça compliqué d'assurer de pouvoir travailler en même temps. Et je trouve surtout que pour eux, ça commence à devenir un peu compliqué et que je sens une motivation. Enfin que voilà, la motivation est de moins en moins là pour le travail, et que je me dis que de 3 mois et 6 avec les vacances, ça commence à être long sans avoir un rythme de travail et sans être sociabilisé normalement. Voilà, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Oui.
Est-ce que vous avez eu des explications de l'école? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore revenus à l'école, vos deux enfants?
Bah ouais, l'explication c'est d'une que le protocole est trop compliqué, est un peu trop rigide pour l'instant, et que ça permet pas d'accueillir beaucoup d'élèves, et qu'une bonne partie des professeurs ne sont pas revenus.
Est-ce que vous devez reprendre un emploi? Est-ce qu'il y a cet enjeu-là aussi en plus, au-delà des difficultés que cela peut créer pour vos enfants de pas aller à l'école?
Alors reprendre oui et non, parce que je travaille à mon compte, donc je peux travailler comme ça, mais c'est difficile d'assurer une continuité dans le travail et ça devient compliqué, comme pour beaucoup de gens, je pense.
Eh ben, on va soumettre ça à nos invités. Merci beaucoup Marie d'avoir appelé. Bonjour Cécile Frattaroli.
Bonjour.
Porte-parole de la PEP, Fédération de parents d'élèves de l'enseignement public. Des témoignages comme celui-ci, vous en avez beaucoup?
Malheureusement oui, trop, et trop encore aujourd'hui. On le dit depuis le début, la place de l'enfant est à l'école, et c'est vrai que le protocole sanitaire est certes très rigide, mais vous répétiez les chiffres tout à l'heure qui sont pas très élevés. Un quart des élèves dans le primaire accueillis chaque jour. Si on respecte le protocole sanitaire certes rigide, on peut quand même accueillir dans chaque classe, dans chaque salle de classe de l'école et d'une école élémentaire, 15 élèves par classe, à peu de choses près, en fonction de la taille des locaux. Et donc, on avec des classes à 30 élèves, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas accueillir chaque jour 50% des élèves. Il faut que chaque salle de classe soit occupée et qu'on mette en face des enfants, des enseignants. Et s'il n'y a pas assez d'enseignants, des animateurs qui feront les 2 S2C préconisés par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, tout le monde peut mieux faire. Je pense que les parents ont suffisamment collaboré. On a eu ce temps de confinement où on a fait l'école à la maison et où les enseignants ont fait la continuité pédagogique à distance. On s'est tous emparés de cette situation avec les moyens du bord et on a essayé d'assurer le nécessaire, mais le minimum. Mais aujourd'hui, l'enfant doit retourner à l'école et on peut le faire, on peut mieux le faire. Alors voilà. Et ensuite, effectivement, la question que vous posiez, c'est le protocole sanitaire. Est-ce qu'il faut l'assouplir ? Donc aujourd'hui, depuis le 11 mai, on a appris beaucoup de choses, hein, puisque tous les jours on en apprend. Et effectivement, les enfants ont l'air d'être moins vecteurs que les plus âgés. Monsieur Delfrécy préconiser un assouplissement du protocole sanitaire en dehors du temps scolaire, pourquoi pas pendant le temps scolaire également. Donc il est urgent de se reposer la question à la lumière de tous ces nouveaux éléments.
On va venir sur le protocole sanitaire et comment l'alléger. Je voulais juste rester un instant sur le constat et après on va vraiment venir sur l'allègement. Est-ce qu'il y a des villes où ça pose le plus de problèmes? Marie nous appelait de Paris. J'ai l'impression que Paris fait partie des villes où c'est compliqué. Il y a également des endroits où il y a carrément des écoles fermées.
Ah oui, alors là, c'est incompréhensible. Alors qu'on ouvre les restaurants, qu'on va ouvrir les piscines, la justification de fermeture d'école est inaudible pour les parents. Alors si c'est un problème de locaux, un problème, un manque de points d'eau, un manque de sanitaire, il est urgent de faire des travaux, mais apparemment, ce n'est pas le problème majeur. Donc la position, est-ce que c'est une position uniquement politique et auquel cas, c'est encore pire. Donc vraiment incompréhensible pour tous. Et je crois qu'il y a des recours qui s'organisent à la fois par les parents, mais aussi par l'État, donc il y a des actions en justice, parce que l'école doit ouvrir pour tous, donc il n'y a aucune raison de maintenir une école fermée sur décision de la mairie aujourd'hui.
Nous avons retrouvé le professeur Cohen. Bonjour professeur.
Bonjour.
Pédiatre à Créteil, vice-président de la Société française de pédiatrie. Je voulais, avant qu'on détaille le débat, revenir sur cette étude que vous avez dirigée et qui montre que les enfants, oui, sont très peu impliqués dans la transmission du virus, très peu contaminés et contaminants.
Effectivement, cette étude, en fait, ne fait que confirmer la littérature internationale qui, au fur et à mesure des semaines, montrait ces données-là. Il y a très peu d'enfants porteurs du virus et ils ont peu de capacité de transmission aux adultes. Donc, l'école n'est pas le problème pour la dynamique d'une épidémie.
Vous faites partie des pédiatres, professeur Cohen, qui, du coup, ont conclu que les enfants doivent revenir plus massivement à l'école.
Ça fait un mois et demi que nous plaidons pour ça, parce que nos premiers résultats d'études allaient dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il y a une unanimité dans la littérature pour penser que, un, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques de transmission entre enfants et entre enfants et adultes, et deuxièmement, pour que ça a des conséquences, comme l'a dit la précédente auditrice, sur le devenir des enfants. Donc vraiment, nous sommes extrêmement inquiets parce que pour un risque minimal, voire absent, en face, il y a énormément d'inconvénients à ce que les enfants ne retournent pas à l'école.
Bonjour Stéphane Crochet.
Bonjour.
Secrétaire général du syndicat d'enseignants SE UNSA, je vous soumets également le message de Géraldine qui a 39 ans sur l'appli de France Inter, mère de 2 enfants, 8 et 5 ans. Mes 2 enfants ne sont pas retournés à l'école depuis la mi-mars, pas une seule journée. L'école de mon fils de 5 ans est trop petite. Avec le protocole, c'est infaisable. Il faut assouplir les règles. Est-ce qu'il faut assouplir les règles dès maintenant, Stéphane Crochet? Est-ce que c'est aussi votre position et comment?
Alors d'abord, les études qui confirment la faible contagiosité des enfants est une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour la vie à l'intérieur des familles et puis enfin pour nos enfants. L'allègement du protocole sanitaire, il doit arriver et permettre de sécuriser, de rassurer tout le monde. Je rappelle que quand il est arrivé, ce protocole sanitaire, tout le monde était confiné. L'inquiétude était maximum dans notre société. Il a été vu avec beaucoup d'inquiétude par les directeurs d'école, hein, en particulier, qui avaient à le mettre en œuvre au regard de la responsabilité qu'ils engageaient. Maintenant, s'il peut être assoupli, il faut qu'il le soit. En revanche, il faut qu'il le soit avec visibilité. Une organisation d'école, ça ne se change pas la veille pour le lendemain, parce qu'on parle beaucoup de la capacité d'accueil dans chacune des classes, mais ce qu'il faut organiser, c'est aussi la vie à l'intérieur de l'école, les temps de récréation, les sorties, la restauration. Autant de sujets qui font aujourd'hui blocage pour pouvoir accueillir plus d'enfants.
Alors, quelle piste pour assouplir, Stéphane Crochet ? On voit des enfants dans les squares assez proches les uns des autres, et dans les cours de récréation, les règles sont encore très strictes, pas de jeu de ballon, pas de contact, 1 mètre de distance. Est-ce que vous disiez justement en dehors de la classe, là, il y a des marges sur la cantine, sur la cour de récréation, là, on peut commencer à assouplir ?
C'est aux scientifiques de nous dire ce que l'on peut faire, mais vraiment ça ne nous a pas fait rire que de réinventer le mode de fonctionnement de l'école pour faire en sorte qu'il se croise le moins possible. Organiser des récrés décalés et quasiment isolés d'un groupe par rapport à un autre, ce n'est pas ça la vie à l'école. En revanche, je voudrais dire que les retours que nous avons de ceux qui sont revenus à l'école, c'est une bonne ambiance, une bonne atmosphère et une grande satisfaction de tous.
Cécile Frattaroli, vous, sur les pistes pour alléger ce protocole, lesquelles privilégieriez-vous ? Est-ce qu'on peut, trouver de nouveaux locaux ? Il y a des gymnases qui ne sont pas utilisés en ce moment, ça peut être ça aussi. Quelles pistes peut-on explorer ?
Alors, au sein du même protocole sanitaire, effectivement, il faut utiliser tous les espaces possibles, les espaces municipaux pour accueillir les élèves quand ça ne suffit pas à l'école. Sur le protocole, je rejoins ce que disait Monsieur Crochet, c'est aux scientifiques de nous dire ce qu'on peut faire. Mais si on commence à regarder le protocole sanitaire, et j'insiste parce que Monsieur Delfrécy parlait du périscolaire, il ne faut pas penser qu'au périscolaire. Ce qui est important, c'est d'accueillir beaucoup plus d'enfants en classe, qu'il y ait un lien social, certes, qui se recrée, mais aussi un lien pédagogique. Et donc, il faudrait augmenter le nombre d'élèves qu'on peut admettre dans une salle de classe, parce que 15 aujourd'hui, ça permet d'accueillir que la moitié de la classe. Donc, si c'est possible, il faut pouvoir le faire rapidement. Alors, effectivement, j'entends l'organisation des espaces, l'organisation de la récré, l'organisation de la cantine. C'est pas du tout facile pour les directeurs, c'est évident, ni pour les enseignants, mais tout s'est mis en place. Il y en a qui n'ont pas de récré, il y en a qui le font de manière décalée. Et effectivement, le retour des enfants, c'est que quel que soit la solution qui a été adoptée, c'est que ça se passe plutôt bien et ils sont plutôt tous contents d'être retournés. Donc, faisons le maximum déjà au sein de ce qu'on connaît aujourd'hui, et puis si on peut augmenter le nombre d'enfants par classe, faisons-le le plus rapidement possible.
Et mobiliser des locaux supplémentaires, est-ce que vous avez eu des discussions sur ce thème avec les rectorats ou avec le ministère, vous, parents d'élèves ?
Alors, pas sur ce thème, c'est plutôt avec les municipalités qu'on a ce genre de discussion.
Oui,
en fait, c'est vraiment, tout dépend de la municipalité. Donc, moi, je vis à Paris, donc c'est très compliqué. Il y a déjà beaucoup peu d'espace, pas assez d'espace. Je crois que les gymnases n'ont pas encore ouvert, par exemple. Et donc, et tout le périscolaire qui est organisé déjà dans les rythmes, les mardis fin d'après-midi, vendredi fin d'après-midi, il est en général fait dans l'école. Donc, on a déjà la problématique de l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont dans le même cas. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. On fait appel aussi à des partenaires. Ça prend du temps et c'est évident. Mais je pense qu'il faut faire plus vite maintenant. Il faut vraiment il faut mettre tout le monde à la disposition des enfants, parce que, encore une fois, c'est important que l'enfant retourne à l'école.
Et les deux S de C dont vous parliez tout à l'heure, sport, santé, culture, civisme, c'est ce qu'on peut résumer ça sous le nom périscolaire. Et là, on pourrait accueillir davantage d'enfants.
Une classe pourrait très bien avoir par moitié une animation sportive ou culturelle, pendant que l'autre est accueilli par son enseignant, ça permettrait à tout le monde de revenir. Alors là, le problème des locaux, évidemment, est majeur, et donc on ne va pas trouver demain de l'espace pour tout le monde. Bon, déjà, on n'a pas 100% des parents qui veulent remettre leur enfant à l'école encore, parce que l'inquiétude perdure, mais on pourrait faire bien mieux. On n'est même pas à 50% aujourd'hui, donc si on ne considérait que la moitié des effectifs accueillis par un enseignant, on n'y est même pas. Donc là, il faut vraiment faire mieux.
Professeur Cohen, avant d'entendre Françoise au standard de France Inter, question, est-ce qu'il est urgent de faire revenir les écoliers avant même la fin de l'année scolaire ? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu ? On peut se dire, après tout, il reste 3-4 semaines, c'est pas très grave, il faut les faire revenir plus massivement dès ce mois de juin ?
La réponse est oui, indiscutablement. Parce que le problème n'est pas un mois d'école après presque 3 mois sans école, et après maintenant 2 mois après de vacances. Ça veut dire 6 mois sans échange avec d'autres enfants que ceux de la famille, sans contact avec d'autres adultes que ceux de la famille, et tout ça est très lourd, non seulement pour les familles, mais en particulier pour les enfants les plus fragiles. Donc la réponse est oui, je suis tout à fait d'idée qu'il faut vraiment le maximum d'enfants retournent à l'école. Je voudrais revenir sur un point.
Oui.
Il faut faire attention sur les 15 enfants par classe. En fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut maintenir un distancement entre les enfants.
Oui.
D'accord ? Il faut savoir que le distancement entre les enfants, il est bien plus relatif que chez l'adulte. Ils sont beaucoup moins contagieux que les adultes. Donc, déjà, 1 mètre, on pourrait se permettre moins chez les enfants. Mais le chiffre de 15 doit dépendre de la taille de la classe. Moi, je comprends pas. Au bout d'un moment, la base scientifique de 15 par classe, si les classes sont grandes, c'est peut-être plus que 15. Si les classes sont petites, sont peut-être moins de 15. Donc, je pense que des protocoles sanitaires trop stricts, qui ne laissent aucune adaptabilité aux écoles, ou en tout cas un minimum d'adaptabilité, c'est ça qu'il faut faire partir. Il faut que les protocoles soient plus légers et surtout plus souples pour permettre justement à la fois aux parents et à la fois aux enseignants d'accueillir le maximum d'enfants dans avec le maximum de sécurité. Mais je pense que tout ça est très possible.
Françoise au Standard de France Inter, bonjour Françoise.
Bonjour.
Je crois que vous êtes directrice d'école, vous, en Haute-Savoie.
Oui, je suis directrice d'école. Nous, on plaide pour vraiment, mais pas un assouplissement, la fin du protocole. Parce qu'en tant que directeur, les premières rentrées ont été très difficiles à organiser. Il a fallu faire des sondages, faire des groupes et tout. Et là, tous les directeurs sont retournés en classe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'école, on est directeur et on est enseignant. Et je ne vois pas comment on va avoir le temps de gérer et la rentrée, et les sondages, et faire des groupes. On est en fin d'année, il faut préparer les rentes, il faut faire les inscriptions, il faut préparer les classes. Donc voilà, c'est vraiment la fin du protocole. Mais pas un assouplissement, il faut qu'on puisse accueillir tous nos élèves dans des bonnes conditions. En maternelle, on fait beaucoup de manipulations, on travaille très peu sur feuilles. C'est important, les échanges avec les enfants. Et là, si c'est qu'un assouplissement et qu'il faut refaire des sondages, refaire des groupes, on n'aura pas le temps.
Merci pour ce témoignage qui sent le vécu vraiment totalement et qui vient du cœur. Stéphane Crochet, est-ce que vous pensez qu'il peut arriver vite cet assouplissement ? Quelle discussion là aussi avez-vous avec vos différents interlocuteurs au ministère ? La dernière phrase du ministre Jean-Michel Blanquer, c'est de l'évoquer bientôt. Et il n'y a pas plus de précision que ça. Il n'exclut pas qu'un assouplissement du protocole sanitaire puisse avoir lieu bientôt. Est-ce que derrière bientôt, on peut mettre la semaine prochaine, par exemple ?
Vous avez entendu l'émotion de ma collègue Françoise, directrice d'école, et je peux vous dire qu'elle n'est pas rare. Les collègues directeurs d'école sont épuisés des évolutions dans le flou, la veille pour le lendemain, en général la veille d'un long week-end. Et derrière, ils assurent et la réorganisation, le lien avec les familles. Donc la question de la visibilité est absolument nécessaire. On peut pas faire des changements la veille pour le lendemain. Tout le monde attend aussi de pouvoir mettre ses enfants à l'école dans la plus grande des sécurités. On ne peut pas improviser les choses du jour au lendemain.
Mais vous sentez que le calendrier va s'accélérer ?
Nous n'avons pas de visibilité sur ce que le ministère souhaite ou ne souhaite pas. Nous, on demande vraiment à ce que l'on puisse avoir une grande visibilité sur la rentrée, que l'on nous dise si cette rentrée se dessine dans un contexte sanitaire qui pourrait nous permettre un retour à la normale. Il va arriver, et arrive déjà, la question du temps périscolaire, des accueils de loisirs. pour que les enfants puissent se retrouver aussi plus largement au-delà du temps scolaire. Et c'est cette visibilité-là qu'il faut pouvoir donner à tout le monde.
Stéphane Crochet, il y a une question taboue, mais qu'on entend de plus en plus, c'est celle de l'attitude des enseignants. Dans le message de Géraldine, il y a aussi ça, l'école de ma fille est très grande, seulement 4 enseignants ont accepté de revenir en présentiel. Est-ce que certains enseignants, on a parlé d'enfants décrocheurs, est-ce que certains enseignants ne reviennent pas à l'école pour des motifs autres que sanitaires, des motifs idéologiques par exemple, des désaccords avec Jean-Michel Blanquer? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce message? Voilà, seulement 4 enseignants ont accepté de revenir en présentiel dans l'école de ma fille qui est pourtant très grande.
Alors, ce ne serait pas possible d'être passé à côté du sujet depuis quelques jours.
Ouais.
Moi, les remontées que j'ai, c'est que vraiment, à nouveau, en juin, on a passé un autre cap du retour à l'école, y compris pour les enseignants, parce que la situation sanitaire a changé. Nous avons un certain nombre de collègues qui sont en public vulnérable. Mmh. Et qui sont un peu plus rassurés. Leurs médecins, par ailleurs, étaient plus rassurés pour un retour au travail au mois de juin. Pour un certain nombre, c'est encore pas possible. Moi, je vois aussi des grandes différences territoriales. Je vois qu'il y a un vrai, vrai sujet Île-de-France au regard des transports en commun qui doivent être utilisés par tout le monde, donc y compris les enseignants.
Cécile Frattaroli, sur cette question, des reproches faits aux enseignants qui ne reprendraient pas assez largement le chemin des cours.
Alors, ça n'est pas mon rôle et je serais pas légitime pour faire des reproches. J'ai pas vu quelles étaient les justifications de chacun. Le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, il en manque beaucoup trop. Alors, sûrement pour des raisons valables, mais c'est vrai que pour les parents, c'est difficilement audible. Et c'est vrai aussi qu'en Île-de-France, la question des transports a joué beaucoup et on a quand même beaucoup d'enseignants absents. Et il faut que tout le monde revienne au maximum. Et c'est vrai que certains aussi ont fait des choix pour assurer du distanciel, de faire des mi-temps, donc ils viennent deux jours, ils ne reviennent pas les deux autres, alors que d'autres pourraient faire du distanciel. Il y a un problème d'organisation. Je pense qu'il faut un maximum de gens en présentiel. Tous ceux qui le peuvent doivent être là. C'est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et c'est valable aussi pour les personnels municipaux, pour les animateurs. Il faut que tout le monde revienne. C'est urgent.
Aurélie au standard de France Inter. Bonjour Aurélie.
Oui, bonjour.
Vous êtes vous-même enseignante. Nous vous écoutons.
Moi, j'appelais juste pour témoigner du très, très grand plaisir qu'on a à retrouver nos élèves et c'est réciproque. Même si c'est contraignant, même si c'est pas comme d'habitude, eh bien, ces mois de confinement nous ont empêché de pratiquer la classe habituellement. Et là, vraiment, on retrouve une joie de venir à l'école. Voilà. Après, je suis d'accord avec le témoignage de la directrice de Haute-Savoie pour les conditions et plutôt qu'un allègement de carrément arrêter tout le protocole. Mais en tout cas, voilà, mon témoignage, c'était vraiment pour dire la joie et le bonheur de se retrouver et de travailler en classe ensemble, même si c'est différent.
Merci pour ce témoignage. Robert Cohen, il nous reste une minute. Y a-t-il un âge où le retour est encore plus urgent que pour les autres? Pour les plus petits, votre étude portait sur les petits jusqu'à 15 ans. Est-ce qu'il y a un âge où c'est vraiment encore plus urgent que pour d'autres de retourner à l'école?
Je crois que c'est important pour tous les âges, mais les âges clés comme la fin de la maternelle, le CP, le CM2, la 6e, tout ça, ça me paraît encore plus important. Et je pense qu'on voit au fur et à mesure des jours nos enfants nous demander de retourner à l'école. C'est une vraie demande de leur part. Et une demande parfaitement justifiée parce qu'ils sentent bien au bout de quelques semaines qu'on ne peut pas vivre sans école. Et j'entends parler de supprimer le protocole sanitaire. Peut-être que ça peut être envisagé transitoirement, mais la rentrée ne se passera pas forcément comme ça. Donc il faut être prêt à adapter nos mesures à l'évolution de l'épidémie et que tout ça ne soit pas trop strict. C'est pour ça que je parle d'assouplissement, parce que l'assouplissement dépend des écoles, mais dépend aussi de l'évolution de l'épidémie.
Merci à tous les trois, professeur Cohen, Stéphane Crochet et Cécile Frattaroli, d'avoir participé à cette émission. Et on va surveiller évidemment les prochaines déclarations de Jean-Michel Blanquer pour voir si assouplissement il y a lieu dans les jours à venir dans les écoles et les collèges. C'est l'heure du carnet de solutions de Philippe Bertrand autour de cette formule. Bouge ton ton coq aujourd'hui, une souscription nationale pour sauver les petits commerces et les TPE. C'est un mouvement citoyen qui permet de financer des activités locales à la campagne. Bonjour Philippe.
Bonjour et bonjour Bruno. Aujourd'hui, cap sur un collectif qui relève le défi de financer les initiatives locales et qui ouvre une souscription nationale pour sauver les petits commerces et les TPE. Deux frères sont à l'origine de ce qu'ils appellent « bouge ton coq ». Entre parenthèses, la formule est plus enviable qu'une autre, même si l'effet est similaire. Il s'agit d'Emmanuel et de Christophe Brochot. Christophe, bonjour.
Bonjour Philippe, merci de nous inviter.
« Bouge ton coq » est d'abord un fonds d'investissement.
On est plutôt un guichet unique de financement de l'économie sociale et solidaire dans les campagnes et pour les campagnes. Et quand je dis guichet unique, c'est-à-dire que l'originalité, c'est de faire ensemble et de regrouper sur une même plateforme des entreprises par le mécénat, des citoyens par le don et les pouvoirs publics qui peuvent abonder également pour financer en amorçage, entre guillemets, des projets d'intérêt général dans les campagnes.
Alors donc, on parle aujourd'hui d'une souscription nationale pour sauver, comme je le disais, les petits commerces et les TPE. Vous avez procédé à un recensement des entreprises en péril ?
Alors, très rapidement, on s'est dit, alors que beaucoup de personnes s'occupaient du domaine sanitaire, on s'est orienté, nous, de notre côté, sur l'économique et principalement sur les petits commerçants, les artisans et les petits producteurs dans nos campagnes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un besoin phénoménal. Et on a travaillé avec l'Association des maires ruraux de France, donc c'est plus de 10 000 maires partout sur le territoire, pour être capable de recenser, en effet, ou en tout cas de faire remonter des besoins très rapidement.
La durée de la souscription nationale est prévue jusqu'à quelle date ?
Alors, pour le moment, il n'y a pas de limite fixe. Aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers qui sont remontés à travers les maires ruraux, puisque le principe est très simple. Une personne qui a un besoin de financement, il y a un petit formulaire qui est tamponné par le maire du village, et ça nous remonte après. Aujourd'hui, on en a reçu énormément. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour dire qu'on a besoin encore de fonds pour arriver à répondre à toute la demande. On a déjà aidé plus de 160 petits commerçants, artisans et petits producteurs sur tout le territoire. Donc c'est quand même beaucoup de bonheur de les aider dans ces moments de grande difficulté. Mais la tâche est encore rude et on a plus d'une centaine de dossiers qui sont encore en attente. Donc voilà, on espère pouvoir faire encore plus.
Ça s'appelle C'est ma tournée, cette belle opération. Le site de Bouge ton coq, c'est bougetoncoq.fr. Merci Christophe.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Dans un instant, la météo et le journal de 13h.
Chantal et Alain ont 70 ans. Ils n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis le début du confinement. Ils n'ont qu'une envie, les serrer dans leurs bras. Alors, pour profiter de leurs petits-enfants et de toute la famille, Chantal et Alain s'adaptent. Ils font très attention à respecter les mesures barrières.
Le virus est toujours là et 9 personnes sur 10 qui meurent d'une infection à coronavirus ont plus de 65 ans. Restons prudents. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter présente Un été avec Pascal, un livre d'Antoine Compagnon.
Les pensées sont remplies de formules inoubliables.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Blaise Pascal, ce virtuose de la langue française, scientifique et philosophe de génie, n'a pas fini de nous étonner.
Un été avec Pascal par Antoine Compagnon, une coédition France Inter.
France 2, Biarritz, été 1960. Un homme arrive du futur pour changer l'avenir d'une femme.
Vous êtes la femme la plus mystérieuse que j'ai jamais rencontrée. Laissez-moi vous aider.
Vous ne pouvez pas.
Romance, votre nouvelle série avec Olga Kurylenko et Pierre Deladonchamp. Dès demain soir à 21h05 sur France 2 et déjà disponible sur la plateforme France.tv.
Après avoir mis nos instants en sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Ensemble, reprenons le chemin de notre liberté. Pour vous accompagner en toute sérénité, BMW s'engage. Votre concessionnaire vous propose la commande, l'essai et la livraison à domicile ou à distance. Et jusqu'au 30 juin, bénéficiez de solutions de financement avantageuses et sans aucun apport sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr.
12h59 sur France Inter. Sébastien Léas, Météo France, est avec nous. Reprise des averses cet après-midi, Sébastien.
Oui, Bruno, les averses commencent à se multiplier et à tourner à l'orage, notamment dans le sud-ouest. On a d'ailleurs des orages en ce moment au sud de Toulouse, mais également en Gironde et en Dordogne. Cet après-midi, le risque d'averses orageuses s'étendra sur une large bande allant de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie au Grand Est, mais aussi sur le sud des Alpes. C'est d'ailleurs sur l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur que les orages seront le plus forts cet après-midi, avec même des risques de grêle. Il y a d'ailleurs des orages en ce moment entre Fréjus et Saint-Auban. Quelques orages se développeront aussi sur le nord-est et la façade ouest de la Corse. Pas de risque d'orage en revanche sur les Alpes du Nord et le Jura, mais un après-midi gris et humide. Ce sera nettement plus calme sur un large quart nord-ouest jusqu'au bassin parisien, au centre-val de Loire et au Poitou-Charentes, ainsi qu'autour du golfe du Lion et sur les plages du sud-ouest, avec des éclaircies qui se dessineront et même beaucoup de soleil près du littoral. Et l'ambiance reste fraîche pour la saison, 15 à 22 degrés cet après-midi, mais tout de même 19 à 26 degrés autour de la Méditerranée.
Merci Sébastien Léas. Vous entendez les tops France Inter, il est 13h. Mardi 9 juin 2020, dans l'actualité aujourd'hui. État d'urgence pour sauver l'aéronautique en France. C'est l'expression du ministre de l'économie Bruno Le Maire. 8 milliards d'euros en plus des 7 déjà débloqués pour Air France KLM. Une partie de l'argent va à la recherche pour des moteurs bas carbone. Les détails dans un instant. 300 000 emplois sont en jeu en France. De nouveaux rassemblements de manifestants qui accusent la police de violence et de racisme ce soir en France. Hier, le gouvernement a promis la suspension des policiers en cas de soupçons avérés de racisme, la fin de la technique de l'étranglement. Édouard Philippe à Évry, en banlieue parisienne, ce matin, à la rencontre de policiers et d'habitants. Il plaide pour le respect et la confiance, mais aussi l'exigence vis-à-vis des forces de l'ordre. Dans l'actualité encore, un gigantesque site Maya, découvert au Mexique. Nous en parlons avec l'invité du journal de 13h, l'archéologue spécialiste de cette civilisation, Philippe Nondedeo. IBM renonce à vendre des outils de reconnaissance faciale. La firme américaine dit rejeter les technologies de surveillance de masse. 16 propositions pour aider les directeurs d'école. Elles émanent de 3 sénateurs. Les directeurs ont de lourdes responsabilités, mais pas les moyens qui vont avec, dit Max Brisson.
Ce sont des chefs d'orchestre, mais ce sont des chefs d'orchestre sans baguette. Pensez qu'un principal de collège de 120 élèves, il a un adjoint, il a un CPE, il a un gestionnaire, que le directeur d'une école de 500 élèves, il est tout seul.
Les détails sur les propositions des sénateurs tout à l'heure. Nous parlerons également d'un nouveau fromage, mais oui, qui vient d'apparaître. C'est une conséquence indirecte du Covid, vous verrez. À 13h30, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
À l'heure de la fin du déjeuner, question sur notre système alimentaire.
Oui, une question pour les auditeurs. Avez-vous craint une pénurie alimentaire pendant le confinement et avez-vous changé vos habitudes de consommation? Les fragilités du système alimentaire, on en parle avec le socio-économiste Nicolas Bricasse.
Vos questions tout de suite au 01 45 24 7000, la Terre au carré à 13h30. Ensuite, vos messages sur le répondeur, le choix musical d'Antoine Decaune. Puis en attendant que le match reprenne, le récit de Philippe Collin pour oublier toutes les compétitions annulées. Ce mardi, alors que l'Euro de foot aurait dû commencer, retour sur l'édition 1992 entre traité de Maastricht et guerre dans les Balkans, le continent était à un tournant de son histoire et l'Euro de football fut agité.
France Inter, midi et demi, 14h, le grand rendez-vous.
C'est une petite partie du monde d'après au plan économique, écologique et social qui se joue là. Le secteur aéronautique, près de 3 mois que des milliers d'avions sont cloués au sol, la reprise se fait tout doucement. En France, 300 000 emplois directs et indirects sont en jeu. Une région comme celle de Toulouse dépend largement du secteur. Alors le soutenir, ce secteur, oui, mais en l'incitant à devenir plus vert. Voilà l'affichage du gouvernement ce matin en présentant son plan d'urgence. C'était à Bercy, le ministère de Bruno Le Maire.
Nous décrétons donc ce matin l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique, pour lui permettre d'être plus compétitive, pour lui permettre d'être plus décarbonée au XXIe siècle. Si nous n'apportons aucune aide publique immédiate, ce sont 100 000 emplois qui sont menacés dans les 6 mois.
Et en tout, le ministre affirme débloquer 15 milliards d'euros pour l'aéronautique. Delphine Simon, 7 milliards avaient déjà été annoncés pour Air France KLM.
Oui, pour aider le secteur à garder la tête hors de l'eau, l'État ajoute 8 milliards d'euros qui vont s'étaler sur 3 ans. Premièrement, il veut accompagner les sous-traitants de l'aéronautique en pleine tourmente. 2 fonds d'investissement vont être créés. Le premier, doté de 500 millions, à terme ce sera 1 milliard pour les PME du secteur. Le deuxième, pour accélérer la robotisation et la numérisation. L'armée va débourser 600 millions pour acheter des avions et des hélicoptères militaires et pour éviter la perte de salariés hautement qualifiés. qualifiés. Des mesures de chômage partiel de longue durée vont être maintenues. Les entreprises pourront aussi aménager les échéances des garanties publiques à l'export. Dernier volet, l'État va débourser 1,5 milliard d'euros pour soutenir la recherche sur l'avion de demain, plus vert et plus silencieux. Au total donc, Air France compris, 15 milliards d'aides publiques en échange du maintien de l'emploi. Bruno Le Maire le confirme, la nouvelle chaîne de construction d'Airbus à Toulouse verra le jour. Mais quand? Tout dépendra du carnet de commandes, car le retour à la normale dans l'aérien n'est pas attendu avant 2023.
Alors tout cela est-il suffisant? Oui, le plan permettra de consolider les entreprises, mais pour Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, il ne constitue pas une garantie contre les licenciements.
Non, on peut pas le garantir. Je crois que chaque société va faire ses comptes, va faire ses capacités. Le but est de conserver les emplois le plus possible dans la mesure où il y a une activité qui va redémarrer. C'est ces calculs-là qui sont en train d'être faits. Le plan va permettre de limiter, mais on peut pas garantir qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois. Tout sera fait, évidemment, pour éviter des licenciements secs. Mais je peux pas vous dire, moi, en tant que JFAS, ni même en tant que Dassault, si on l'évitera complètement.
Et sur les 300 000 emplois directs et indirects liés à l'aéronautique, les deux tiers sont en Occitanie, en France, la région de Toulouse en particulier. Il y a des centaines de sous-traitants, parmi lesquels de Richebourg, 1600 salariés, là aussi la très grande majorité en région toulousaine, et l'entreprise dit redouter une réduction des commandes de 50% de la part d'Airbus. Elle envisage de mettre en place un plan de performance collective, baisse de primes et indemnités en échange d'un maintien de l'emploi, faute de quoi elle pourrait licencier 700 personnes. Autant dire que ces salariés attendaient les annonces du gouvernement avec impatience. Un rassemblement est organisé devant l'usine en cette mi-journée et c'est la déception pour Philippe Faucard, délégué syndical UNSA aérien chez de Richebourg.
Il n'y a rien qui va bien, à part pour les petits oiseaux, parce que c'est vraiment dédié à l'écologie, hein, pour faire des avions propres. Après, pour nous, ça va rien nous apporter, parce que de toute façon, ils ne parlent à aucun moment de la sous-traitance. Dans les documents qui apparaissent, ce qu'on avait voulu, c'est vraiment un plan de soutien d'Airbus, certes, mais aussi de la sous-traitance. Surtout de la sous-traitance pour nous, avec un maintien des salaires et de l'emploi. Mais après, est-ce que Airbus va faire redescendre l'argent jusqu'à la sous-traitance? Je pense que non. Il faut quelque chose sur le chômage partiel, oui. Payé à 100%, maintenu à 100%, payé par l'État. Et là, oui, après, on pourrait dire que ça serait un vrai soutien. Parce que là, on pourrait attendre la relance, qui est prévue pour 2023. Nous, on pense que ça sera bien avant. Je pense qu'en 2021, on repartira déjà. Surtout maintenir le chômage partiel, mais à 100%, pour que les salaires soient maintenus.
Et Bruno Le Maire, ce matin, parlait d'un maintien d'une activité partielle de longue durée ambitieuse, qui répond en partie à ses propos recueillis par Stéphane Iglesias. Au-delà du secteur aéronautique, globalement, l'économie française pourrait plonger de 10% cette année. C'est le chiffre que donne la Banque de France pour 2020. Taux de chômage à 10% selon la Banque de France à la fin de l'année. Il ne repasserait en dessous de cette barre symbolique qu'en 2022 seulement. Et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, juge pas souhaitable qu'il y ait des hausses d'impôts pour rembourser la dette rapidement après cette crise. La réponse du gouvernement aux manifestations de ces derniers jours va-t-elle convaincre? 20 000 personnes mardi dernier à Paris, 23 000 samedi à travers la France. Mot d'ordre, non aux violences policières et au racisme dans la police. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé de nouvelles mesures. La suspension systématique de policiers ou gendarmes lorsqu'il y a un soupçon avéré d'actes ou propos racistes et l'interdiction de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement. À propos de cette interdiction, parmi les commentaires des syndicats de police, c'est la seule technique qui permette de maîtriser un individu dont le poids est supérieur à l'agent de police. Pour Alliance, on vit dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil, sauf les policiers pour l'UNSA. Alors c'est à la fois aux policiers et aux habitants d'une ville de banlieue que s'adressait le Premier ministre ce matin, Édouard Philippe à Évry. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour Bruno.
Yannick, vous avez suivi ce déplacement?
Oui, et déclaration d'Edouard Philippe il y a quelques instants dans les locaux de l'association Génération 2 qui joue notamment l'interface entre les jeunes et les institutions, dont la police. Edouard Philippe dans un rôle d'équilibriste.
Gardiens de la paix, les forces de l'ordre qui assurent notre protection, nous leur devons respect et confiance. Et parce que nous devons avoir respect et confiance à des femmes et des hommes qui s'engagent dans des missions redoutablement difficiles et essentielles, nous avons également un devoir d'exigence vis-à-vis d'elle, vis-à-vis d'eux.
Et un peu plus tôt, le chef du gouvernement s'est rendu au commissariat d'Evry, échange avec des policiers. Au lendemain de l'intervention de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, tolérance zéro contre le racisme, brebis galeuse, interdiction de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement, vous en parliez, un vocabulaire et une décision qui font bondir Guillaume Roux, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP dans l'Essonne.
C'est des mots très durs à entendre, ça lance le discrédit sur des milliers de collègues qui chaque jour interviennent dans des quartiers difficiles, sur des interventions sensibles et qui aujourd'hui se sentent en fait stigmatisé. Ça montre la méconnaissance du terrain parce qu'aujourd'hui il faut venir sur des quartiers sensibles, il faut venir interpeller et vous verrez que les techniques employées sont nécessaires.
Et le terrain, Guillaume Roux connaît, 18 ans à la BAC, la brigade anticriminalité, avec des interventions notamment dans la cité voisine et Tarteret. Après la colère citoyenne liée aux affaires Adama Traoré en France et George Floyd aux États-Unis, c'est donc la grogne policière qui s'exprime à nouveau aujourd'hui. On le voit, et pour reprendre une expression chère à Edouard Philippe, ce sujet, comme d'autres, constitue pour le gouvernement un chemin de crête.
Et Yannick Falt avec Gilles Gallinaro en direct d'Evry, et cette formule également du Premier ministre, le racisme est une forme de maladie de l'âme, une faiblesse. Alors les annonces du gouvernement et les déplacements n'empêchent pas de nouvelles manifestations de se tenir ce soir, 18h, heure des obsèques de George Floyd à Houston aux États-Unis. Il y aura de nouveaux rassemblements au même moment en France, sachant que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits par la loi, puisque nous sommes sous l'état d'urgence sanitaire, mais ceux-là seront tolérés et ne donneront pas lieu à des sanctions, c'est ce que précise le ministre de l'Intérieur. Il y en aura à Lille, à Bourges, à Grenoble, à Dijon, à Poitiers, à Paris. Faustine Calmel, c'est à l'appel d'SOS Racisme, place de la République.
Oui, à l'heure où les obsèques de George Floyd débuteront à Houston, les manifestants sont invités à respecter le silence. Long silence de 8 minutes et 46 secondes, le temps qu'a duré l'asphyxie de cet Afro-Américain, le cou coincé sous le genou d'un policier. Mais ce rassemblement de SOS Racisme n'est pas qu'un hommage à Floyd. Deuxième objectif, c'est de pousser le chef de l'État et son Premier ministre à prendre la parole, dit Dominique Sopo, le président de l'association. La parole sur les violences policières qui ne sont pas, assure-t-il, que des dérives individuelles. Appel au rassemblement auquel se sont associés plusieurs partis politiques, socialistes, communistes, France Insoumise, syndicats aussi, et également des organisations étudiantes et lycéennes.
Et de son côté, la LICRA appelle à une autre forme d'hommage, Faustine.
Oui, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme appelle ceux qu'ils souhaitent à cesser toute activité à 18h, toujours pendant 8 minutes et 46 secondes, mais cette fois chacun pour soi, où il se trouve, dans le respect donc cette fois des règles sanitaires.
Et est-ce que la famille d'Adama Traoré, le jeune homme mort après une course poursuite et une arrestation en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Est-ce que la famille participe à ces rassemblements? On rappelle que c'est elle qui avait organisé la première manifestation sur ce thème. Plus de 20 000 personnes il y a une semaine à Paris, Faustine.
Eh bien non, Bruno. Non seulement elle n'y participe pas, mais elle les dénonce, ces rassemblements, comme une tentative de récupération et de division du mouvement. C'est ce que vient de dire Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui tient en ce moment une conférence de presse à Paris.
La division, c'est pas la famille Traoré qui l'a fait. Au contraire, la division, elle est faite par ceux qui organisent aujourd'hui ce rassemblement sur place de la République. La vraie voix, elle est avec nous. La vraie voix, elle n'est pas avec celle de ce soir. Quand on fait un rassemblement et qu'on ne parle pas de ce qui se passe en France, qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis et qu'on ne fait même pas appel sur la marche des familles de victimes, bah c'est une honte.
Assa Traoré qui appelle, elle, à des rassemblements samedi dans toute la France. Ce sera à Paris, toujours place de la République. Elle promet aussi des manifestations sauvages, sans déclaration, si rien ne bouge dans le dossier de son frère.
Faustine Calmel avec Fabien Gosset pour France Inter. Et si je disais que ces rassemblements sont tolérés malgré l'état d'urgence sanitaire à Angers, cela dit, la préfecture a pris un arrêté d'interdiction. Parmi les annonces faites hier par Christophe Castaner, une réforme en profondeur des IGPN et IGGN, la police des polices et celle de la gendarmerie, pour plus d'indépendance. Ces structures auraient trop de proximité avec leurs collègues pour enquêter correctement. Cela fait partie des accusations récurrentes. L'année dernière, 1460 enquêtes judiciaires contre des policiers ont été ouvertes, en hausse de 23% des accusations de violence. Il y a 250 000 policiers et gendarmes en France. Et l'IGPN organisait une conférence de presse ce matin. Emmanuel Leclerc, comment accueille-t-elle ces projets de réforme ?
Eh bien, Bruno, la directrice de celles et ceux que l'on surnomme les bœufs carottes, Brigitte Julien, n'a pas esquivé cette critique récurrente du manque d'indépendance.
Il n'y en a pas un qui vous dira « Oh là, on adore venir être convoqué à l'IGPN ». Donc on est craint.
Brigitte Julien rappelle que ce n'est pas l'IGPN qui décide ensuite de la sanction judiciaire ou administrative. Sur la question ensuite du racisme dans la police, Eh bien, Brigitte Julien, la comparer, vous allez l'entendre, avec celle du harcèlement des femmes policières.
Au début, c'est vrai que les femmes qui étaient arrivées dans la police n'osaient pas dire qu'elles étaient victimes de harcèlement. Et progressivement, c'est quelque chose qui est révélé et qui ne se cache plus et qui se dit. Les propos de cette nature-là ne sont plus acceptables. Et je ne pense pas qu'il y ait une omerta parce que la pression du groupe est tellement forte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se comporterait de cette façon resterait isolé au sein de son groupe.
La directrice de l'IGPN a déclaré qu'elle fera prochainement des propositions sur les contrôles d'identité pour éviter les accusations de contrôle au faciès, des propositions également pour mieux identifier avec les caméras de surveillance le numéro que portent les policiers sur leur uniforme, hein, vous savez le fameux RIO, oui. Bien trop petit actuellement.
Emmanuel Leclerc avec Raymond Albouy pour France Inter. Aux États-Unis, c'est donc à 18h qu'auront lieu les obsèques de George Floyd à Houston, Texas. Obsèques dans l'intimité familiale après une cérémonie publique qui a réuni quelques 6000 personnes hier. Un des grands défenseurs de la cause noire aux États-Unis, le réalisateur Spike Lee, était ce matin l'invité de France Inter. 15 jours de rassemblements, de manifestations, parfois d'émeutes aux États-Unis, dans un contexte électoral brûlant à 5 mois de la présidentielle, le match Trump-Biden. Ces événements peuvent avoir, selon Spike Lee, une influence sur la réélection ou non de Donald Trump.
Non, je regardais CNN ce matin. Ça va avoir un effet sur les sondages. Ça a un effet sur les sondages. L'agent orange, il ne doit pas se sentir à l'aise. Tellement, vraiment, oui. Vous savez, on est au bord du gouffre aux États-Unis. Les généraux américains, vous savez, les généraux ne disent rien sur rien d'ordinaire. Les anciens généraux, ils sont en désaccord avec ce que fait ce type. Cette prochaine élection présidentielle sera l'élection présidentielle la plus importante de l'histoire de la civilisation moderne, pas seulement de l'histoire des États-Unis. Si ce type, l'agent orange, est réélu, eh bien le monde sera en péril.
Spike Lee avec Léa Salamé sur France Inter ce matin. L'interprète était Michel Zlotowski. Aux États-Unis, le Covid a tué plus de 110 000 personnes depuis le début de l'épidémie et l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte. La situation s'améliore en Europe, mais elle s'aggrave sur le continent américain et en Asie du Sud. L'Asie du Sud zoom sur cette région avec vous, Valérie Crova.
En mars dernier, la directrice régionale de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est lançait un avertissement. Il existe des groupes de transmission du virus importants qui doivent nous contraindre à des efforts plus agressifs pour empêcher la propagation du Covid-19. Trois mois plus tard, sur les 10 pays de la région scrutés par l'OMS et qui abritent plus du quart de la population mondiale, 9 d'entre eux continuent de voir chaque jour de nouveaux cas de coronavirus. L'Inde constitue aujourd'hui le principal foyer, avec 256 000 cas confirmés, suivi du Bangladesh avec 65 000 cas et de l'Indonésie où plus de 31 000 cas ont été enregistrés. Si le sud du continent asiatique semble avoir été un temps épargné, plusieurs pays s'attendaient à un pic épidémique en raison des personnes asymptomatiques. Le virus se propagerait plus vite, surtout dans les zones où la densité de la population est importante. Autre hypothèse avancée pour expliquer ces mauvais chiffres, les mesures barrières seraient moins respectées avec le temps.
Depuis le début de la pandémie, le Covid a touché 7 millions de personnes dans le monde. Et si l'Europe respire un peu mieux, un vent d'inquiétude souffle en Grèce, où le nombre de nouveaux cas augmente à nouveau à quelques semaines de la saison touristique.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
C'est la découverte de l'année dans le monde de l'archéologie. Un très grand site maya datant de 1000 ans avant notre ère dans le sud-est du Mexique. Les images viennent d'être publiées par la revue Nature. Pour en parler, l'invité du journal de 13h est Philippe Nondedeo, archéologue spécialiste de l'ère maya. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, professeur à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Présentez-nous ce site qui vient d'être découvert, Philippe Nondedeo.
Alors c'est une découverte assez spectaculaire qui a eu lieu donc dans le sud du Mexique, dans l'état du Tabasco. Mmh. Et en fait c'est une découverte qui a été faite à partir donc d'une technologie assez nouvelle pour l'ère maya, qui est la technologie LIDAR, qui nous permet d'avoir une espèce de radiographie du sol à partir d'un petit boîtier qui est à l'intérieur d'un avion embarqué. Mmh. Et qui permet comme ça d'envoyer des centaines de milliers d'impulsions lumineuses par seconde. Mmh. Et de dresser une cartographie du sol en retirant la végétation, puisque ces impulsions lumineuses traversent la végétation et nous permettent d'avoir accès à des zones qui, jusque-là, étaient difficiles d'accès en raison de la forêt tropicale.
Voilà, le LIDAR, voilà pour ceux qui imaginent que les archéologues travaillent toujours au râteau et à la truelle. Philippe Nandedeo, 1400 mètres de long, 400 mètres de large, ce site, comment se fait-il qu'il soit passé inaperçu jusque-là ?
Eh bien justement, du fait de cette taille et de cette dimension très importante, la population locale et les archéologues, puisque c'est une zone en fait qui jusque-là a été très faiblement étudiée par les archéologues. On n'est pas très loin de la grande cité de Palenque que certainement beaucoup de vos auditeurs connaissent. Et là, étant donné la taille de cette plateforme, donc vous l'avez dit, 1,4 km, 400 mètres de large, entre 10 et 14 mètres de haut, les gens pensaient tout simplement qu'il s'agissait d'une élévation naturelle du paysage.
Est-ce qu'on sait à quoi servait, entre guillemets, je ne sais pas si le terme est approprié, à quoi servait ce site, qu'est-ce qu'on y faisait ?
Alors c'est toujours un peu délicat puisque là on remonte, et c'est ça l'intérêt de cette découverte, on remonte sur des périodes très anciennes puisqu'on est entre -1000 et -800. Donc avant Jésus-Christ, et cette grande plateforme qui ressemble presque à une piste d'atterrissage et par ses dimensions, avait certainement un but commémoratif, un but rituel, où la population se rassemblait. Et l'on sait que les configurations comme celle qui est présente sur cette grande plateforme, c'est-à-dire une petite plateforme élevée à l'ouest et puis une plateforme un petit peu allongée à l'est, servait et servira en tout cas plus tard pour la civilisation maya, à scruter un petit peu l'horizon et voir le lever du soleil tout au long de l'année pour définir les périodes et le cycle agricole, puisqu'on est face à une population et une culture qui est essentiellement agraire.
Et ça nous raconte aussi peut-être des croisements entre la civilisation maya et la civilisation olmèque, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Là, on est, et c'est ça l'intérêt aussi de ce site-là, c'est qu'on est en fait en marge de l'ère Maya, puisqu'on est vraiment à l'ouest de la zone Maya, et on est en marge aussi de la zone Olmèque, puisqu'on est à l'est des Olmèques, donc on est pratiquement entre les deux, dans une zone un petit peu tampon, une zone frontière, où là, cette cité ou cette concentration d'architecture monumentale à caractère rituel se développe en associant à la fois des caractéristiques de la construction architecturale olmèque, c'est-à-dire chez les olmèques, on va construire des grandes plateformes horizontales, et à la fois des principes qui sont chers aux Mayas en architecture, qui sont ces groupes qu'on appelait autrefois groupes astronomiques pour les viser notamment du lever du soleil. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu intermédiaire entre les principes de construction olmèque, et notamment toute cette grande plateforme va être construite essentiellement en terre, comme le faisaient les olmèques, et non en pierre, comme le font les Mayas, mais en reprenant des systèmes de construction et des principes architecturaux qui vont être chers aux Mayas, et notamment ces complexes architecturaux publics pour observer le lever du soleil à l'horizon.
Voilà, quelques minutes pour en savoir un peu plus sur ce site Aguada Phoenix, découvert dans le sud-est du Mexique. Merci beaucoup Philippe Nandedeo d'avoir répondu à nos questions à ce propos. Tout autre sujet à présent, comment aider les directeurs d'école mis à rude épreuve ces dernières semaines avec la crise sanitaire? Mais la question date d'avant, au printemps dernier, un projet du ministre envisageant le regroupement de certaines écoles avec des collèges les avait mis en colère, et le suicide d'une de leurs collègues, Christine Renon, avait dramatiquement mis en lumière leurs difficultés, manque de moyens, de temps, de sérénité. Trois sénateurs, Sonia Princé, s'attaquent à cette question des directeurs d'école et publient 16 propositions pour les aider.
Les directeurs ont avant tout besoin de temps. Le rapport préconise un système de décharge plus favorable, un tiers de temps d'enseignement en moins dans une école de 4 à 7 classes, c'est un quart actuellement, une demi-décharge pour 8 à 12 classes et une décharge totale à partir de 13 classes et non plus 14. Ils ont aussi besoin d'une aide administrative sous forme de contrat de 3 ans renouvelable pour plus de stabilité, propose le rapport, qui dénonce au passage la fausse bonne idée du ministre de recourir au service civique. Aujourd'hui, 4000 postes de directeurs seraient vacants, cela représente 9% des écoles, la fonction n'attire plus et la crise du Covid n'a fait qu'amplifier le malaise des directeurs, comme le dit le sénateur et rapporteur Max Brisson.
Elle a montré que les directeurs d'école avaient de lourdes responsabilités et qu'ils n'avaient pas les moyens d'exercer ces responsabilités. Ce sont des chefs d'orchestre, mais ce sont des chefs d'orchestre sans baguette. Pensez qu'un principal de collège de 120 élèves, il a un adjoint, il a un CPE, il a un gestionnaire, que le directeur d'une école de 500 élèves, il est tout seul.
D'où l'idée de créer non pas un statut rigide qui ne permettrait plus au directeur d'enseigner, mais une fonction reconnue associée à une revalorisation indemnitaire et à une clarification des missions. Un directeur d'école de plus de 10 classes perçoit actuellement une indemnité d'un peu plus de 400 euros par mois, 260 euros pour une école de 2 à 4 classes.
Et une proposition de loi doit être examinée dans les jours ou semaines à venir à l'Assemblée concernant les directeurs d'école. C'est un des grands noms de l'informatique et des nouvelles technologies. Comme beaucoup d'entreprises de ce secteur, IBM travaillait sur la reconnaissance faciale. Eh bien, Julien Baldacchino, la firme américaine annonce qu'elle ne vendra plus d'outils de reconnaissance faciale. Elle se dit opposée à l'utilisation de toute technologie à des fins de surveillance de masse.
Le propos d'IBM est clair. Dans sa lettre au Congrès, le PDG de la firme s'oppose à l'utilisation des technologies dont fait partie la reconnaissance faciale pour la surveillance de masse, le contrôle aux faciès et les violations des droits de l'homme. Le problème de cette technologie, pointée par plusieurs études, c'est qu'elle n'est pas efficace avec la même précision pour tout le monde. Selon le genre, la couleur ou l'âge de la personne, le visage est plus ou moins bien reconnu. Ainsi, chez IBM, un visage d'homme blanc était reconnu à 99,7%, un visage de femme noire à seulement 65%. L'an dernier, la firme avait bâti une nouvelle base de données pour tenter d'entraîner son intelligence artificielle à mieux identifier la diversité des visages, des efforts qui n'ont pas suffi. Dans sa lettre, le PDG d'IBM affirme que les utilisateurs et les créateurs de ces systèmes se partagent la responsabilité de s'assurer que les erreurs de reconnaissance peuvent être identifiées et réparées à défaut d'être évitées a priori.
Et d'autres détails sur cette histoire, vous en trouverez grâce à Julien Baldacchino sur franceinter.fr. Voici à présent une conséquence inattendue de la crise sanitaire. Un nouveau fromage vient de voir le jour. Ça se passe dans les Vosges. Lionel et Laura Vaxeler sont agriculteurs à Saulsure-sur-Moselotte. Leurs vaches produisent du lait exclusivement pour fabriquer du Munster ou du Petit Blanc, mais pendant le confinement, impossible de tout vendre, alors ils ont laissé traîner du fromage au fond de la cave. Résultat, une nouvelle appellation, le confiné. Explication Lionel Vaxeler lui-même.
La vente de nos produits avait énormément baissé pendant le confinement. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de fromage sur les bras. Et on a décidé de laisser un lot de Munster au fond de notre cave. Et dans notre cave, donc, on a nos Munster, on a nos petits blancs type camembert. Donc, il y a eu toute une ambiance dans notre cave. Alors, normalement, quand on fait du Munster à hausser, donc, qui est lavé tous les deux jours, là, donc, on l'avait laissé de côté et on l'a laissé un mois de temps. Et ensuite, on a goûté pour voir ce que ça donnait nos fromages, nos fameux confinés. Le goût était assez sympathique. C'était pas un Munster. C'était pas un style camembert qu'on fait. C'était un mélange en fait de la flore de la cave. C'est un fromage avec du caractère mais qui reste doux quand même. Et aujourd'hui, ouais, que les clients demandent et redemandent, donc ça fait plaisir. Quand on cherchait son nom, ma femme dit, allez hop, on va l'appeler Le Confiné. Et c'est venu tout seul avec son petit slogan, il vient juste de sortir. Dès que les premiers sont partis, que nos clients habituels on redemandait, on s'est dit tout de suite, allez hop, on en remet en fabrication, on en remet en confinement. C'est une découverte grâce au confinement.
Un propos recueilli par Rémi Brancato. Allez, fromager et dessert. Pour finir ce journal du rap, les rappeurs de Run the Jewels sortent leur 4e album. Ils l'offrent gratuitement en pleine crise aux États-Unis et ils transforment cette sortie en appel aux dons pour les organisations qui luttent contre le racisme en Amérique. Mathieu Culeron.
Le groupe de rap formé par le producteur new-yorkais LP et le rappeur Killer Mike d'Atlanta l'ont annoncé sur leur compte Instagram. Ils ont décidé de sortir ce nouvel album précipitamment pour, je cite, « avoir quelque chose à écouter pendant qu'on règle la question ». Comprenez la question raciale. L'album est à télécharger gratuitement sur le site de Run the Jewels ou à écouter librement sur YouTube ou sur l'une des différentes plateformes de stream. Le groupe qui incite les fans à faire un don à l'une des organisations antiracistes américaines. Avec un vieux logiciel, les rappeurs américains parviennent à sortir un album divertissant rempli de références pour les cadras. C'est le cas de ce Goonies vs E.T., deux films cultes pour enfants des années 80. Parmi les invités, Pharrell Williams, Josh Homme des Queens of the Stone Age et Greg Nice et DJ Premier pour un single fait d'onomatopées très françaises. Ooh la la, ah oui oui. Ooh la la, ah oui oui. Hey. Run the Jewels 4, un album offert, véritable bande-son du soulèvement américain, alors que le duo s'apprêtait à entamer une tournée géante en première partie de Rage Against the Machine.
Run the Jewels, le nouvel album écouté et conseillé par Mathieu Culeron.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriqué en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas, Météo France.
Cet après-midi, les averses et les orages se développent à nouveau entre les Pyrénées, le Massif Central, le Lyonnais et le Grand Est. Sur le Jura et les Alpes du Nord, seules quelques pluies sont attendues cet après-midi. En revanche, sur les Alpes du Sud, les orages sont plus actifs et donnent localement de la grêle. Les averses orageuses sont souvent peu mobiles, mais peuvent tout de même déborder vers la Côte d'Azur. En Corse, le soleil brille sur la Balagne et dans le Sud-Est, mais quelques averses orageuses sont à craindre sur le reste de l'île. Un large quart nord-ouest de l'Hexagone bénéficie d'un temps plus clément, même si les nuages sont parfois nombreux cet après-midi. Quelques gouttes peuvent se faire remarquer sur la basse Normandie et la Bretagne, mais le soleil se montre généreux sur les côtes de la Manche et les éclaircies sont belles sur toutes les côtes atlantiques. Autour du golfe du Lion, l'après-midi est plutôt ensoleillé, mais le vent est bien sensible. Les températures sont assez fraîches pour la saison cet après-midi, variant entre 15 et 22 degrés, avec 19 à 26 degrés autour de la Méditerranée.
Dans un instant, la suite du grand rendez-vous, la Terre au carré autour des fragilités du système alimentaire dans le monde.
Dans le cadre des témoignages recueillis auprès d'entrepreneurs clients de Société Générale, nous appelons Benjamin Barbeau, président de Hellfest Productions en Loire-Atlantique. Le Hellfest, le festival de hard rock, aurait dû se dérouler en juin. Alors Benjamin, comment gérez-vous ces événements ?
Le Hellfest aujourd'hui, c'est le plus gros festival de hard rock pour 180 000 personnes présentes chaque année. Mm-hmm. La difficulté d'un festival comme le nôtre est de mettre en chantier effectivement tout le montage du festival. Bien On a eu cette chance de pouvoir l'arrêter finalement juste avant, début avril. Donc ça a permis de stopper l'hémorragie.
Oui, mais enfin, vous risquez d'y laisser des plumes dans l'histoire.
Les festivaliers nous ont très peu demandé de remboursement cette année, ce qui va permettre à l'association de pouvoir finalement compter sur une trésorerie qui va nous permettre de passer l'exercice et la crise actuelle. L'association doit malgré tout faire face à des frais généraux importants, à une équipe de salariés en place, à des frais de promotion déjà engagés.
Et alors pour l'avenir, vous faites appel à Société Générale.
Le Hellfest et la Société Générale, c'est depuis quasiment la création du festival, il y a un peu plus de 15 ans. Donc je n'ai absolument pas de doute sur le fait que la Société Générale saura nous accompagner dans cette gestion de crise qui va nous forcer à devoir faire une année blanche.
Eh bien merci beaucoup pour votre témoignage, Benjamin Barbeau.
Business Affaires.
Bon, pour l'avenir de la France, voilà comment ça va se passer. Moi, je m'occupe d'être un canapé design, fabriqué par une entreprise familiale qui profite à l'économie française. Et vous, installez-vous, tranquille.
Camif.fr, nos meubles aussi, pensent très très fort à demain.
13h31.
France Inter. Midi et demi, 14h. Le grand rendez-vous. Bruno Duvic.
C'est l'heure de la Terre au carré avec Mathieu Vidard. Et aujourd'hui, Mathieu, on s'intéresse à la fragilité des systèmes alimentaires, fragilité révélée par la crise du Covid.
Oui Bruno, le coronavirus va-t-il provoquer une crise alimentaire mondiale ? Cette question, de nombreux experts se la sont posée très vite après le début de l'épidémie, alors que de nombreux pays entraient en confinement et stoppaient toute activité. Il faut dire que plusieurs facteurs susceptibles d'enrayer la machine alimentaire mondiale justifiaient une telle interrogation. Surstock de certains États, interdiction d'exportation de grands producteurs de blé, pénurie de main-d'œuvre agricole sur l'ensemble de la planète, ou encore retard dans les transports, tout semblait concorder pour casser la dynamique habituellement à l'œuvre. Les consommateurs ont très rapidement paniqué face à une telle menace. Les caddies se sont remplis dans les premiers jours de la crise sanitaire. Rapidement, certains rayons se sont vidés de leurs produits. Et puis le 1er avril, trois organisations, la FAO pour l'alimentation, l'OMC pour le commerce et l'OMS pour la santé, ont publié ensemble un communiqué, chose plutôt rare, pour exprimer leur crainte de voir arriver des pénuries injustifiées de produits essentiels et l'exacerbation de la faim et de la malnutrition. La tension semblait à son comble et pourtant, Bruno, aucun effondrement ne s'est produit et le système alimentaire mondial a plutôt bien tenu le choc.
Comment explique-t-on cela ?
Eh bien, tout simplement par le fait que les personnes ont pu contribuer à continuer à travailler dans toutes les chaînes du système. On peut d'ailleurs en profiter pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont pris des risques en poursuivant leur activité, en nous permettant d'avoir de quoi manger, comme la main-d'œuvre agricole, les manutentionnaires ou les caissières et les caissiers des supermarchés. Alors bien sûr, le confinement a quand même eu des effets sur la machine alimentaire. On peut noter par exemple des perturbations dans la production agricole et des flux de produits alimentaires. On peut noter également une modification de la demande du fait du confinement et une perte de revenus d'une partie de la population. Mais globalement, donc, les systèmes ont plutôt résisté. En revanche, même si les pays développés n'ont pas connu de pénurie, la crise du Covid a mis en lumière les risques et les défauts du système actuel concernant nos modes de production et de consommation à moyen terme. Et elle a aggravé les inégalités en termes de malnutrition en faisant basculer dans la faim des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Comme va nous l'expliquer notre invité, donc, la crise a révélé un système alimentaire malade qui génère des inégalités et qui est trop coûteux en ressources et en énergie. Ce serait donc le moment de profiter de cette période si particulière pour le repenser, afin d'imaginer une alimentation durable basée sur la sécurité alimentaire et le respect de l'environnement, tout en luttant évidemment contre les inégalités sociales.
Et en ligne avec nous, Nicolas Bricaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-économiste de l'alimentation au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et vous êtes titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Les appels des auditeurs, c'est au 01 45 24 7000. Il y en a déjà. Et la première question, c'est pour Mathieu Vidard.
Nicolas Bricaz, le spectre donc d'une crise alimentaire a plané pendant toute la durée du confinement et puis finalement, on l'a dit, ça a relativement bien tenu. Est-ce qu'il y avait quand même un risque important que les choses s'écroulent et que ce système se bloque totalement au point d'engendrer de graves pénuries? Est-ce que ça a pu être le cas à un moment?
Si les travailleurs du système alimentaire, en particulier les transporteurs et tous les agents de la distribution n'avaient pas été travaillés, on est dans un système alimentaire à flux très tendu, on a très peu de stocks, et donc du coup on pouvait craindre effectivement des ruptures d'approvisionnement. Heureusement, en fait, tous les agents des systèmes alimentaires, comme les agents des systèmes de santé, ont continué à travailler et du coup à offrir toujours une grande diversité de produits dans les magasins.
Est-ce qu'on a manqué de bras dans les champs, Nicolas Bricaz?
Oui, on a manqué de bras dans les champs, en particulier en France, on l'a clairement vu, parce que on s'est rendu compte, finalement, ça a mis au jour le fait qu'on utilise une main-d'œuvre temporaire très importante et qui d'ailleurs s'accroît d'année en année, comme l'ont montré des études du ministère de l'Agriculture l'année dernière. Et cette main-d'œuvre, du coup, du fait des blocages de frontières, a pas pu venir travailler. Alors, on a essayé de trouver une main-d'œuvre locale, mais en même temps, une main-d'œuvre locale qui va juste travailler quelques semaines, qui doit apprendre les gestes que connaissent les travailleurs émigrés qui viennent régulièrement, c'était difficile, et ce qui fait que l'importance de l'offre, il y a eu beaucoup de gens qui ont proposé leurs bras pour l'agriculture, il n'y a pas eu tant que ça de contrats qui ont été signés par rapport au nombre de gens qui ont proposé leurs services.
Et c'était le cas en France et ailleurs? Vous parliez de la France, ça a été le cas dans d'autres pays?
C'était le cas en France, c'était le cas ailleurs. L'Allemagne a ouvert plus vite ses frontières pour permettre à de la main-d'œuvre étrangère de venir. En France, c'est rouvert depuis peu de temps. Mais effectivement, ça a fait craindre des impossibilités de récolter. Il y a même des agriculteurs qui n'ont pas pu récolter leur production par manque de main-d'œuvre.
Vanessa au Standard de France Inter. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour.
Vous vivez dans l'Indre.
Donc un département particulièrement rural. Moi, je me pose souvent la question de la part de responsabilité de chacun dans la consommation et la production. Parce que moi, pour des raisons de santé, je tendais vers une alimentation plutôt bio ou raisonnée et locale. Et donc là, nous avons dû revoir totalement notre mode de consommation en passant sur beaucoup, beaucoup de bio. J'ai donc trouvé des producteurs locaux. La solution à la crise alimentaire mondiale, c'est certainement pas ça, mais je pense que chacun a sa part de responsabilité dans notre mode de consommation. Moi, je sais que pendant une grande partie du confinement, je n'ai jamais eu peur de manquer d'alimentation. Je n'ai pas fait de réserve. J'ai ma réserve habituelle. Mais donc, si nous, en tant que consommateurs, on tend vers une consommation raisonnée, sans égoïsme ou avec un égoïsme éclairé, je pense que ça permettrait aussi de faciliter la survie aussi de nos agriculteurs et que ça passe aussi par l'éducation. Enfin, moi, j'ai appris à mes enfants, on ne consomme pas des fraises au mois de décembre parce que c'est pas la saison où on les récolte. Et récemment, nous avons lu le livre de la jungle et il parle du cycle de la vie. Et c'est quelque chose que je reprends très souvent avec eux. Ou même là, aujourd'hui, nous avons des cerises, on ne les mange pas toutes, les autres, elles sont pour les oiseaux. Ça fait partie du cycle de la vie. Et que la nature, on doit la respecter, je pense, pour qu'elle puisse avoir notre...
Qu'elle puisse donner en échange. Merci, voilà. Merci Vanessa pour ce témoignage. Nicolas Bricasse, est-ce que les changements d'habitude des consommateurs, ce qui est, je présume, mais peut-être que je présume mal, un phénomène essentiellement occidental, est-ce que ça a déjà un impact sur le système alimentaire ?
Non, bah d'abord, je crois qu'on ne sait pas encore grand-chose sur les changements qu'ont pu provoquer dans la durée la période de confinement.
Oui.
On est en train de faire des enquêtes pour essayer de voir ce qu'il reste des changements importants qu'il y a eu pendant la période de confinement. Changements importants, ça voulait dire on mange beaucoup moins, on mange même plus du tout à la cantine, on mange beaucoup moins dehors et on mange et on cuisine chez soi. Donc est-ce que ça aura durablement remis les gens à faire de la cuisine ? On voit en tout cas que ce qui semble se dessiner, c'est une accentuation des tendances préexistantes. Mmh. Première tendance qui était l'intérêt pour les produits locaux, l'intérêt pour les produits plus sains et en particulier issus de l'agriculture biologique, mais aussi le recours à la commande internet, au drive et à la livraison. Et ça, on voit qu'effectivement, pendant la période de confinement, ça s'est accentué. Que va-t-il en rester maintenant ? Probablement une partie des consommateurs qui ont du pouvoir d'achat vont pouvoir poursuivre ces tendances. Mais on a quand même une partie des consommateurs qui a perdu de l'activité, qui a perdu du revenu et qui se retrouve dans une situation de véritable précarité alimentaire. Des gens qui avaient tout juste de quoi boucler leur fin de mois pour arriver à manger à peu près correctement comme ils le souhaitaient et qui, même avec 20% de baisse de leur revenu, se retrouvent dans des situations oui. de précarité. Et on l'a vu, ça s'est traduit par une très très forte augmentation de la demande en aide alimentaire. Mais cette demande en aide alimentaire, elle ne doit pas nous... Elle ne doit pas nous faire croire que tout passe par là. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en situation de précarité, mais qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller à l'aide alimentaire, qui n'osent même pas y aller. Pour eux, c'est inconcevable d'y aller. Donc, ils sont en dehors des radars sociaux et qui sont aujourd'hui, pour moi, ce qu'on peut appeler le début d'une crise alimentaire. C'est pas une crise de l'offre, c'est pas une crise du manque de nourriture ou de problèmes de logistique. C'est une crise de la demande. C'est une paupérisation subite et grave de toute une partie de la population qui était déjà très très juste.
Mathieu Vidard.
Oui, on a beaucoup entendu parler, Nicolas Bricasse, de relocalisation justement et d'autonomie alimentaire là pendant confinement. Mais vous mettez-vous plutôt en garde contre cette idéologie du local et de l'autonomie alimentaire? Pour quelle raison?
Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas imaginer qu'on pourra nourrir tout le monde uniquement à partir d'une production locale. Grosso modo, si on fait le calcul, quelle est la surface agricole nécessaire pour nourrir la population de chacun des départements français? Donc on peut faire ce calcul, il y a un outil qui est en ligne, qui est très commode, tout le monde peut s'amuser à le faire, qui s'appelle Parcel, P-A-R-C-E-L, et qui vous permet de calculer quelle est la surface agricole disponible dans le département et quelle est la surface agricole nécessaire pour produire tout ce qu'on mange dans le département. Bon, si on fait le calcul pour tous les départements français, la moitié de la population française vit dans des départements qui ont des surfaces agricoles suffisamment importantes pour nourrir la population du département. Et l'autre moitié, bien évidemment, est dans des départements qui n'ont pas de surface agricole suffisante. C'est le bassin parisien, c'est tout l'arc méditerranéen, c'est l'est de la France, c'est la région lyonnaise. Bon, alors même dans l'hypothèse où on pourrait utiliser toutes les terres agricoles disponibles pour relocaliser la production et nourrir chacun des départements, ça suppose qu'on déspécialise complètement les départements. Historiquement, la France a vu une spécialisation régionale tirant parti des caractéristiques agronomiques et climatiques qui fait que il est plus intéressant de produire du vin dans le Bordelais, dans le Languedoc-Roussillon ou dans la vallée du Rhône que de le produire en Picardie ou en Bretagne. Et donc on voit bien que la France est spécialisée et en cela, elle a permis d'abord d'améliorer la qualité des produits et d'abaisser leurs coûts. Si on devait totalement rediversifier, ça veut dire qu'on a une alimentation qui va coûter plus cher. On est aujourd'hui dans la recherche d'un compromis entre le besoin d'un côté de rediversifier la production alimentaire à la plus petite échelle possible pour des raisons écologiques, pour des raisons de lutte contre les maladies, pour des raisons de bouclage de cycles de fertilité, et de l'autre, une tendance à spécialiser un minimum pour gagner en économie d'échelle et en fait tirer parti des savoir-faire et des spécificités de chacune des régions. Et c'est ce compromis entre les deux qui est pas facile à trouver.
Thierry au standard de France Inter. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lorient.
Tout à fait. Donc nos rayons aujourd'hui dans les grandes surfaces coulent sous des produits en provenance de toute la planète, hein, finalement, des fruits, des légumes, avec souvent beaucoup de pertes. Hein, les poubelles sont souvent remplies hein, derrière ces grandes surfaces. Souvent, ces légumes sont produits avec des produits, des pesticides interdits en France ou en Europe. Souvent, la main-d'œuvre est réduite en esclavage. Donc la petite question était la suivante. Après la guerre 39-45, hors mondialisation de l'alimentation, les Français avaient-ils une moins bonne santé qu'aujourd'hui ? Merci.
Merci à vous. Ce qui pose la question de la qualité de l'alimentation, Nicolas Bricaz.
Au lendemain de la guerre, les Français avaient, pour certains aspects, une moins bonne santé. Il y avait encore des carences nutritionnelles qui existaient. Mais on n'avait pas de nouveaux problèmes de santé qu'on voit maintenant émerger, qui sont la consommation trop importante de résidus de pesticides, de résidus de plastique, et donc de nouvelles pathologies qui ont émergé avec l'industrialisation de l'alimentation. On a un peu l'impression que l'alimentation des Français est complètement dépendante des pays extra-européens. En réalité, si on regarde les chiffres, on est peu dépendant des autres pays du monde. On importe des fruits, effectivement, tropicaux. On importe du café, du cacao, effectivement, des pays tropicaux. On importe du concentré de tomates de Chine. On importe un peu de tomates d'Espagne, en France. Mais grosso modo, l'Europe est aujourd'hui dans une capacité totalement, d'assurer la nourriture de tous les Européens en termes de capacité agricole. Et on exporte et on importe. Donc aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est la mise en concurrence à l'échelle mondiale de zones de production agricole où d'un côté on fait des efforts environnementaux et sociaux, c'est le cas de l'Europe, et dans d'autres pays beaucoup plus éloignés où on les fait moins, et donc du coup on met en concurrence effectivement des zones de production agricole. Mais faut regarder produit par produit, on n'est pas si dépendant que ça des importations extra-européennes.
Mathieu Vidard.
Oui, vous qualifiez notre système alimentaire de malade, Nicolas Bricaz, et vous êtes partisan de l'agroécologie, qui serait une réponse aux symptômes de ces maladies, peut-être du système alimentaire. Qu'est-ce qui caractérise cette agriculture ?
L'agroécologie, il faudrait plutôt dire les agroécologies, en fait, c'est une très grande diversité de solutions à la fois techniques et organisationnelles, pour produire, tirant parti des ressources offertes dans chacun des terroirs, effectivement, se passant de produits chimiques qui ont, on le sait, accéléré la destruction de la biodiversité, généré des pollutions très importantes. Donc d'abord, disons, les agroécologies, elles cherchent à résoudre le problème environnemental qui est aujourd'hui celui de l'agriculture. Je vous rappelle, le système alimentaire, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et c'est une grande part de la responsabilité dans l'effondrement de la biodiversité, effondrement qui menace tout simplement la capacité de continuer à produire suffisamment pour tout le monde. Bon, c'est voilà une série de réponses techniques. Ça veut dire que ça s'éloigne d'une solution unique qui a été celle du système industriel, l'engrais chimique, les produits phytosanitaires chimiques, qu'on applique de façon généralisée sur un très petit nombre de variétés, quelques semences qui se diffusent à l'échelle planétaire. Et donc l'idée, c'est de revenir à une grande diversité de situations adaptées à chacun des terroirs. Mais c'est pas uniquement des solutions techniques, c'est aussi une autre façon de gouverner le système alimentaire, d'être moins dépendant d'un certain nombre de lobbies qui aujourd'hui ont fait leur richesse et leur puissance dans le système industriel, et qu'on a besoin de rééquilibrer les rapports de force dans le pilotage du système alimentaire pour redonner plus de pouvoir aux producteurs et aux différents acteurs des filières alimentaires.
Une dernière question au standard de France Inter. Bonjour Julien.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, moi, justement, je suis très satisfait d'avoir entendu ce que je viens d'entendre, donc concernant tout ce qui est agroécologie et ces systèmes de culture. Mais justement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour changer les habitudes de consommation de notre les habitudes culturelles de notre société, comment, et pour changer ces façons de gérer le monde, en fait? Comment est-ce qu'on fait?
Nicolas Bricaz, est-ce que vous avez des solutions concrètes, ou est-ce qu'à la fin, le facteur prix primera toujours sur les autres?
Le facteur prix, il prime incontestablement, et il va primer fortement compte tenu de la paupérisation d'une partie de la population. Moi, il me semble que la première chose à faire, c'est changer les modes de gouvernance du système alimentaire, rééquilibrer les forces en présence qui décident des orientations et de l'avenir de notre système alimentaire. On voit qu'il y a eu des tentatives sur la base des travaux des scientifiques depuis des années pour dire, pour tirer des sonnettes d'alarme et pour dire attention, la façon dont on produit aujourd'hui pose des problèmes qui risquent d'être totalement ingérables à court terme ou à moyen terme. Et on voit qu'il y a des forces qui bloquent ça. Donc ça veut dire rééquilibrer les forces pour arriver à faire passer une nécessaire transition du système.
Merci, merci Nicolas Bricasse d'avoir répondu à nos questions. À demain, Mathieu Vidard pour...
Au revoir Bruno.
Et ben on se retrouve à 14h aussi pour une rediffusion de La Terre au Carré. À très bientôt donc et à demain à la fois. Répondeur.
Le répondeur d'Inter... 01 56 40 68 68.
Bonjour, c'est Béatrice des Hauts-de-France. Moi, je voulais remercier et dire bravo à tous ces enseignants qui ont repris la classe, qui débordent d'imagination pour accueillir les enfants dans des bonnes conditions. Moi, je suis grand-mère de 7 petits-enfants, dont 6 scolarisés. Ils ont tous été ravis de reprendre et tout se passe bien et bravo, quoi. Voilà, au revoir.
Bonjour, Dorine de Paris. Nous sommes très nombreux à nous interroger sur l'après-Covid-19 pour que ce ne soit pas ou plus comme avant sur le plan écologique. Nous, consommateurs, nous sommes une force. Nous avons le pouvoir d'agir sur les grands groupes en refusant par exemple de consommer des produits qui font des milliers de kilomètres jusqu'à nous et qui sont commandés par des commerces électroniques qui souvent ne respectent ni leurs employés ni la fiscalité. Solidairement vôtre.
Bonjour, je me prénomme Laurent. Michel-Édouard Leclerc avait dit qu'il y avait des primes à la fin pour les gens qui étaient en première ligne, à savoir leur drive. Mon fils a travaillé pendant 4 mois là-bas, 5 mois, et à la fin, il n'a pas eu de prime. C'est super décevant pour un gamin. Au revoir, merci France Inter.
01 56 40 68 68.
Le répondeur au bonsoir de Christophe Imbert et Ophélie Vivier. 13h50, c'est l'heure d'Antoine Decaune. Bonjour Antoine.
Bonjour Bruno. Et mon cher Bruno, même si les précautions sanitaires nous séparent l'un de l'autre, et que nous n'avons jamais franchi la barrière des gestes, autrement dit, même si la vie nous sépare, Bruno, oui, pour l'instant, sachez que j'ai des informateurs à France Inter, notamment du côté de la régie, qui me renseignent en temps réel sur vos réactions à mes choix musicaux. On me rapporte que la musique rythmée a sur vous un effet spectaculaire et qu'au moindre tempo soutenu, disons au-delà de 110 BPM, vous êtes soudainement comme possédé, agité de spasmes limite épileptiques et cela pour le plus grand plaisir des techniciens, réalisateurs et attachés de production que votre légendaire maîtrise habituelle, en toutes circonstances, que l'on aborde le douloureux sujet de la réévaluation des montants compensatoires ou le macabre décompte des victimes d'une pandémie, laisse pantois. D'après eux, on vous envoie une chanson un peu up-tempo et hop, vous voilà transformé en lapin Duracell. Les psychiatres auraient même baptisé cette pathologie la duvikite. Eh bien, pour faire plaisir à la régie, mais aussi aux auditeurs qui désormais pourront visualiser, je vous offre aujourd'hui un prince de la soul. C'est Curtis Mayfield, ça a 50 ans et vous allez pouvoir vérifier dans un instant que ça remue toujours, comme vous, avec un titre de circonstance. Move on up.
C'est parti.
Just move on up.
Mayfield, Move on Up. Un jour, Antoine, je vous présenterai Thibaut Cavaillès qui dansait avec le masque accroché, un seul élastique à une oreille. C'est épouvantable à voir. Pop, à 16h tout à l'heure.
On me dit quand même en régie que vous avez éclaboussé de votre sueur les murs du studio. Hein.
C'est une horreur.
Tout à l'heure dans Pop, Carole Rocher et William Lebigle.
À tout à l'heure pour Pop et à demain dans le grand rendez-vous. Salut Antoine et salut Philippe Collin.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En attendant que le match reprenne tous les mardis, on oublie les compétitions qui n'ont pas lieu en racontant des histoires de sport avec vous. Cette semaine, l'Euro 92, on va traverser ce mois de juin sans l'Euro 2020. La compétition devait débuter vendredi, pas de football, pas de soirée entre copains devant la télé. Mais donc un nouveau flashback avec vous Philippe, 1992.
Le 26 juin précisément, ouais. Et ce jour-là, Bruno, les yeux de l'Europe étaient braqués sur Göteborg au sud de la Suède, car au vieux stade Ullevi doit se jouer la finale inédite et très inattendue de cette Euro 92. D'un côté, l'Allemagne, fraîchement réunifiée, de l'autre, un Danemark repêché in extremis. Les deux équipes entrent sur le terrain à 20h et encore une fois, le football devient miroir de la politique.
Alors, rappelons le contexte, l'Allemagne est championne du monde de football, championne entier depuis 2 ans.
Oui, en 1990, les joueurs de la RFA ont soulevé la coupe en or à Rome, mais l'Allemagne n'était pas encore réunifiée. Donc, cette finale de l'Euro 92, c'est l'opportunité pour elle de décrocher un premier titre international de football en tant que nation unifiée. Ce serait bien sûr historique. Cette victoire peut être à la fois donc synonyme de renaissance d'un pays réconcilié, mais aussi l'éclosion d'une force motrice pour l'Europe.
Alors pour ça, il faut le battre le Danemark, pays européen, qui s'est fait entendre quelques semaines plus tôt, Philippe.
Oui, puisqu'à contre-pied des sondages, les Danois ont voté non au traité de Maastricht lors d'un référendum le 2 juin 1992. Un coup de tonnerre dans le ciel bleu aux 12 étoiles dorées. Et à cela, il faut ajouter que le Danemark, Bruno, n'aurait jamais dû se retrouver en finale de cet Euro 92, car au départ, l'équipe n'était pas qualifiée. C'est au pied levé que le Danemark a remplacé la Yougoslavie, banni de la compétition par l'UEFA le 31 mai.
Alors, on va y venir à la Yougoslavie en demi-finale. Les Danois dynamitent les Pays-Bas, tenants du titre, pendant que les ethnies yougoslaves s'entre-déchirent dans les Balkans redevenus poudrières.
Et de son côté, l'Allemagne réunifiée s'est débarrassée de la Confédération des États indépendants. Certains s'en souviennent, la CEI, voilà exactement, comprenait la défunte Union soviétique. Un match qui, à sa manière, enterrait la guerre froide, plus de RDA, ni du RSS. C'est alors que ce 26 juin 1992 à Göteborg, sous l'autorité de monsieur Bruno Gahler, l'arbitre suisse, le petit Danemark et son grand Peter Schmeichel créent la sensation.
Eh oui, victoire danoise, 2-0.
Un choc le lendemain, la presse de Copenhague s'enflamme et vante la frénésie du jeu danois pendant cet Euro 92, un peuple de 5 millions d'habitants qui s'oppose à la grande machine européenne. Seulement voilà, certains éditorialistes poussent la comparaison trop loin, évoquant cette victoire comme une résistance à la menace économique que représente cette Allemagne réunifiée voisine, n'hésitant pas à comparer cette résistance footballistique à celle du peuple danois face à l'envahisseur nazi 50 ans plus tôt. Tollé général en Europe, d'autant que des heures sombres frappent à nouveau le vieux continent. Au cœur d'une Yougoslavie en guerre, une Yougoslavie qui commence donc à compter ses morts.
Et une Yougoslavie qui, avant d'être exclue de l'Euro, cette équipe était sans conteste l'une des plus belles formations de football européenne.
Elle comptait dans ses rangs des footballeurs extraordinaires comme Susic, Pančev, Savicevic, Stojkovic, Šuker ou Prozinecki, des virtuoses privées de récital. Ensemble, ils avaient été champions du monde junior en 1987 et cette génération semblait être vouée à de grandes victoires. Cette équipe a participé à la Coupe du Monde 90 en Italie, au moment même d'ailleurs où les premières tensions ont commencé à secouer la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Ce fut l'ultime compétition pour cette équipe de football qui a croisé la route de Diego Maradona en quart de finale à Florence.
Et après un ultime pénalty manqué par Farouk Hadžibegić, la Yougoslavie est éliminée du mondial.
Et ce match perdu préfigure la fin de l'histoire du football yougoslave, une histoire commencée en 1920 dans ce tout nouveau pays à l'époque, sur ce territoire où fut assassiné l'archiduc François Ferdinand, attentat déclencheur de la Première Guerre mondiale. C'était donc une équipe née de la paix retrouvée en 1920 qui s'est disloquée au retour de la guerre dans les Balkans à la fin du XXe siècle.
Et ce 30 juin 90, deux ans avant l'Euro, dans les tribunes du stade de Florence, il y avait un spectateur hors du commun, Philippe.
Oui, oui, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, allemand de naissance, adolescent, il avait fui le Reich nazi avec sa famille. En 90, il est en Italie comme chroniqueur de cette Coupe du Monde pour le Los Angeles Times. Dans son édito du lendemain, après la défaite de la Yougoslavie, Kissinger a écrit dans son journal « Ce mondial signe le retour du nationalisme en Europe ». Kissinger a sans doute aperçu quelque chose de vrai dans les stades de football de la péninsule italienne. Et c'est ainsi qu'à l'été 92, lors de ce championnat d'Europe des nations en Suède, le football yougoslave a disparu, englouti dans sa guerre, au profit d'un Danemark donc victorieux et insoumis au traité de Maastricht. Alors certes, le football n'est que du football, mais parfois, Bruno, il prend le pouls des tensions et devient malgré lui le théâtre des conflits. Pour conclure, il ne faut jamais oublier, jamais, que la vertu de l'Europe, son œuvre à vrai dire, c'est la réconciliation des peuples.
C'était Philippe Collin. En attendant que le match reprenne chaque mardi dans ce grand rendez-vous. Merci Philippe.
Merci Bruno. Salut.
À la semaine prochaine.